Vous écoutez On lit pour vous.
Le cauchemar des terreurs nocturnes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 mai 2025 dans La Presse. Les terreurs nocturnes sont généralement liées à un manque de sommeil, selon une psychologue américaine qui a récemment fait une revue des études scientifiques sur le sujet. La plupart des cas de terreur nocturne chez les enfants se règle avec un allongement du sommeil ou avec des siestes, explique Jennifer Mundt, psychologue de l'Université de l'Utah, qui a publié sa revue de la littérature dans la revue Sleep Medicine en 2023. La fièvre peut aussi entraîner de tels épisodes d'angoisse. Ils sont plus fréquents durant l'enfance et deviennent plus rares avec le temps, dit Mme Mundt, qui est spécialiste des parasomnies, des troubles du sommeil, chez l'adulte. Les terreurs nocturnes surviennent généralement 1 h 30 à 2 h après l'endormissement, dans un cycle de sommeil profond, non lié aux rêves ou aux mouvements rapides du sommeil, REM, un cycle de fin de nuit. Elles sont plus fréquentes chez l'enfant parce que ce cycle profond de sommeil est encore plus profond dans un cerveau moins mature, selon Oliviero Bruni, neuropédiatre, spécialiste du sommeil à l'Université de Rome, qui a publié dans la revue Pediatric Pulmonology un état des connaissances sur le sujet en 2021. Parfois, dit-il, le siège des émotions et des mouvements dans le cerveau se réveille, mais pas le siège de la conscience. Ça cause des terreurs nocturnes. Quand l'enfant est fatigué ou fait de la fièvre, le sommeil profond l'est encore plus, ce qui aggrave le problème, souligne le spécialiste italien. Beaucoup de parents associent à tort ces épisodes à l'épilepsie, selon lui. Première solution à essayer, des siestes, mettre les enfants au lit plus tôt et conserver des horaires de sommeil stables. Si les terreurs nocturnes sont très fréquentes, il suggère de réveiller l'enfant environ 1 h 30 après qu'il s'est endormi pour éviter un réveil partiel et l'épisode de terreur qui l'accompagne. Mais si les terreurs surviennent seulement une fois par mois, on réveille l'enfant pour rien la plupart du temps, observe le chercheur. Dans les cas graves, on peut demander au médecin un médicament anti-anxiété, le clonazépam, qui raccourcit le cycle de sommeil profond du début de la nuit, avance le docteur Bruni. Un médicament naturel, vendu sans ordonnance, le 5-HTP, pourrait aussi aider, ajoute-t-il, en rendant le sommeil profond plus léger. Madame Mundt confirme que le clonazépam est utilisé pour les adultes souffrant de terreurs nocturnes, mais mentionne que peu de médecins sont à l'aise de l'utiliser pour les enfants. Même l'utilisation de la mélatonine pour les enfants ne fait pas l'unanimité. Je crois qu'il faut privilégier les stratégies comportementales comme les siestes, le coucher plus tôt et les réveils planifiés. Charles Morin, psychologue spécialiste du sommeil à l'Université Laval, estime que les benzodiazépines, comme le clonazépam, sont une solution de dernier recours. Il s'agit d'un problème héréditaire, et dans la majorité des cas, le problème s'estompe avec la maturation de l'enfant. Il est donc important de rassurer les parents et de les éduquer sur les bonnes pratiques de sommeil chez l'enfant, recommande-t-il. Adulte. Quand le problème subsiste jusqu'à l'âge adulte, il devient généralement du somnambulisme, indiquent les deux chercheurs, avec des épisodes de faim nocturne dans certains cas. Les terreurs nocturnes peuvent-elles être associées à des traumatismes? On a souvent vu dans les films des ex-militaires terrifiés pendant leur sommeil à leur retour de la guerre. C'est très différent, répond Mme Mundt. Ça arrive durant le cycle REM et c'est lié à une région du cerveau appelée l'hippocampe. Cette région est liée au traitement des souvenirs et pourrait les faire ressurgir pendant le sommeil à la suite d'un traumatisme. En savoir plus? Source: Sleep Medicine. 10% proportion de la population qui a souffert de terreurs nocturnes dans sa vie. De 7 à 27% proportion des enfants ayant souffert de terreurs nocturnes qui ont encore ce problème à l'adolescence. C'était « Le cauchemar des terreurs nocturnes », un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 mai 2025 dans La Presse.
Les États-Unis vont restreindre les conditions d'accès aux vaccins contre la COVID. Un texte de Charlotte Cosit de l'agence France-Presse, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. Les États-Unis vont restreindre les conditions d'accès aux vaccins contre la COVID-19, ne les recommandant désormais plus que pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ou celles à risque, ont annoncé mardi le 20 mai 2025 deux hauts responsables. Ce changement survient alors que le secrétaire à la santé de Donald Trump, le vaccino-sceptique Robert Kennedy Jr., cherche à réformer la politique vaccinale du pays. Il doit permettre d'aligner les directives américaines avec celles d'autres grands pays développés, dont ceux de l'Union européenne, ont justifié deux hauts responsables de l'Agence américaine du médicament, FDA, Marty McCarry et Vinayak Prasad, dans un éditorial. Alors que tous les autres pays riches limitent les recommandations vaccinales aux adultes âgés ou aux personnes présentant un risque élevé de développer une forme grave de COVID-19, les États-Unis ont adopté une approche uniforme pour tous les groupes d'âge, ont-ils relevé dans ce texte publié dans la revue médicale The New England Journal of Medicine. L'Agence américaine du médicament ne recommandera ainsi désormais la vaccination contre la COVID-19 qu'aux personnes âgées de 65 ans et plus ou à celles âgées entre 6 mois et 64 ans qui présentent au moins un facteur de risque de développer une forme grave de la maladie, annonce-t-il. La définition de ces facteurs de risque est toutefois très large et va de l'asthme au sida, en passant par le diabète, l'obésité, la schizophrénie ou encore le fait de fumer ou de ne pas avoir d'activité physique. Selon les autorités sanitaires américaines, environ 74% des adultes américains présentent au moins un de ces facteurs à risque. Nouvelles études. Autre grande nouveauté. Les autorités vont demander aux laboratoires pharmaceutiques de mener des essais cliniques sur les bénéfices des vaccins pour les personnes en bonne santé de moins de 65 ans, ont annoncé les responsables, alors même que des études à grande échelle ont déjà été menées sur ces vaccins. L'objectif est de déterminer quels sont les bénéfices et risques de la vaccination annuelle contre la COVID-19 chez les personnes n'étant pas à risque, explique-t-il, détaillant le modèle d'étude préconisé par la FDA à cet escient. Ce dernier prévoit notamment que les groupes de contrôle puissent recevoir une solution saline en guise de placebo, une approche contestée dans la communauté médicale quand il existe déjà un vaccin standard, mais largement promu par le secrétaire américain à la santé, RFK Jr. Il a aussi récemment déclaré qu'il souhaitait changer la façon dont les vaccins sont testés, suscitant l'inquiétude de plusieurs experts dans le domaine. Ceux-ci craignent que de tels changements ne limitent l'accès à ces traitements, alors que le pays dispose de l'un des systèmes les plus rigoureux en la matière. Extrêmement pro-vaccin. Les États-Unis vont également demander aux laboratoires pharmaceutiques de mener des essais cliniques sur les bénéfices des vaccins pour les personnes en bonne santé de moins de 65 ans, ont annoncé les responsables. L'objectif sera de déterminer quels sont les bénéfices et risques de la vaccination annuelle contre le COVID-19 chez les personnes n'étant pas à risque, explique-t-il. Nous voulons en savoir plus sur les effets de ces produits, en particulier au moment où nous nous dirigeons vers une 7e, 8e et 9e dose de vaccin contre la COVID-19, a insisté Vinayak Prasad lors d'une conférence tenue dans la foulée, assurant par ailleurs être une personne extrêmement pro-vaccin. L'éditorial évoque par ailleurs la possibilité que les groupes de contrôle de ces études reçoivent une solution saline en guise de placebo, une approche qui, ne faisant pas l'unanimité dans la communauté médicale en raison des vaccins fiables préexistants, mais que promeut RFK Jr. Confiance et fausses informations. Ce changement de politique doit servir à restaurer la confiance du public dans les autorités sanitaires mises à mal lors de la pandémie de COVID-19, ont insisté les responsables, pointant la réticence grandissante du public à se faire vacciner, notamment contre la rougeole, alors même que la sûreté et l'efficacité de ce vaccin ont été clairement établies. Une méfiance que le secrétaire à la Santé est lui-même accusé d'avoir alimentée, en relayant à de nombreuses reprises des fausses informations au sujet des vaccins contre la COVID-19 ou la rougeole. RFK Jr. avait notamment qualifié lors de la pandémie les vaccins contre la COVID-19 de « plus mortels jamais fabriqués » et suggéré que le virus était ethniquement ciblé pour nuire aux personnes noires et aux personnes blanches, tout en épargnant les Ashkénazes et les Chinois. Les États-Unis ont été le pays à payer le plus lourd tribut lors de la pandémie de COVID-19, avec 1,2 million de morts selon l'OMS. L'annonce de ce changement de politique survient dans la foulée de l'imposition de nouvelles restrictions à l'égard d'un de ces vaccins contre la COVID-19. Avec un retard inhabituel, la FDA a approuvé l'autorisation complète du vaccin Nuvaxovid, déjà autorisé dans le pays, mais lui a imposé des restrictions d'usage strictes, a annoncé le laboratoire pharmaceutique Novavax, le développant. C'était « Les États-Unis vont restreindre les conditions d'accès au vaccin contre la COVID », un texte de Charlotte Cosit de l'agence France Presse paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.
"35 médecins décrivent leur trou noir", un texte de Francis Vaille paru le 3 juin 2025 dans la presse. De partout au Québec, ils m'ont écrit. Des médecins de famille, des urgentologues, des chirurgiens, des radiologues et tutti quanti. Ils ont été interpellés, voire choqués, par l'étude de la chaire Jacques Parizeau de HEC Montréal, selon laquelle la hausse de la rémunération à l'acte a eu un effet négatif sur le volume de services entre 2011 et 2023, suggérant une baisse de la productivité des médecins. Autre constat de l'étude, l'État ne sait pas ce que font les médecins durant le quart de leur temps de travail, ce que j'ai appelé un trou noir, qu'on aurait avantage à mieux comprendre. Sur la centaine de courriels reçus, quelques 35 me viennent de médecins, dont les deux tiers sont des médecins de famille. Ils m'expliquent, justement, ce qui constitue ce trou noir, entre autres. Je synthétise leurs récriminations par catégorie, par le truchement de certaines des lettres. La rémunération. Plusieurs jugent irréaliste la rémunération que gagnerait un médecin de famille à temps plein, 414 000 $, estimée dans l'étude. Selon eux, la surestimation s'explique par ce trou noir de 25 % de leur temps, qui est travaillé, mais souvent non rémunéré. Quelques-uns estiment
que la rémunération d'un omnipraticien à temps plein avoisine plutôt les 250 000 à 300 000 $ au Québec avant les frais de bureau. L'alourdissement et la complexification des soins. Yves Langlois, médecin de famille, 42 ans de pratique. Alors qu'auparavant, je pouvais facilement voir 4 patients à l'heure, je peine actuellement à en voir 3, parfois 2, étant donné l'âge et le nombre de comorbidités dont sont affligés les patients. Sofiane Hadi, médecin de famille, il y a une augmentation marquée de la complexité des soins chez les patients âgés. Même les populations plus jeunes ont des problèmes plus lourds. Chez les adolescents, il y a une explosion des problèmes d'anxiété et de dépression. Un médecin de famille d'expérience de Sherbrooke fait remarquer que les gens vivent plus longtemps, mais ils sont plus malades en fin de vie. Environ 30 % de nos visites sont reliées à des problèmes de santé mentale et il n'y a pas d'accès à un psychologue. Nancy Durand, médecin de famille à Drummondville, les gens ont des exigences grandissantes. Ils veulent qu'on leur explique pourquoi on fait tel examen ou tel traitement. Ils veulent comprendre, et c'est normal. Ça rallonge les rendez-vous. Certains viennent parfois en marchette et prennent du temps pour se rendre de la salle d'attente à mon bureau. Ils ont de la difficulté à embarquer sur ma table d'examen. Les tâches administratives. Catherine Bégin-Guindon, médecin de famille, je pourrais prendre plus de patients si je n'avais pas une montagne de tâches administratives, comme le remplissage de formulaires d'assurance, les justifications d'absence au travail, les appels au CLSC pour prendre un rendez-vous de prise de sang pour un patient dément, analphabète ou ne parlant pas français, anglais, etc. Un médecin de famille de Sherbrooke. Le temps consacré à la paperasse quotidiennement est de 2 heures. Pour ce qui est du temps libre, il sert à analyser les résultats de laboratoire, rappeler les patients, remplir une quantité infinie de formulaires, assister à des réunions pour gérer la clinique, communiquer avec d'autres professionnels ou appeler à l'hôpital pour accélérer un rendez-vous pour nos patients. Le travail mal organisé. Catherine Bégin-Guindon. Je pourrais voir plus de patients si je n'avais pas à harceler l'hôpital pour m'assurer que mes demandes de consultation en spécialité ou en radiologie sont reçues, si je n'avais pas à appeler aux archives pour recevoir une copie de dossier d'hospitalisation qui aurait dû m'être envoyé d'emblée, si je n'avais pas à passer un temps interminable à renvoyer des fax aux pharmaciens parce qu'ils ne sont pas passés, si je ne recevais pas constamment des résultats en double, triple, quadruple, si j'avais l'espace pour voir des patients dans 2 salles à la fois ou sans rendez-vous plutôt que d'attendre qu'ils rhabillent bébé, si je ne devais pas ouvrir 3 ou 4 logiciels qui boguent afin de fonctionner. Jean-Marc Hébert, médecin de famille Saint-Donat, nos limites sont souvent le manque de soutien. Travailleurs sociaux en maladie, pas de psychologue, pas de possibilité de référer en physiothérapie, faute de moyens financiers, attente impossible pour une chirurgie du genou, attente interminable au plateau technique pour les scans et IRM, etc. Donc, on revoit les patients, on prescrit, represcrit, on écoute, on soutient, on remplit les formulaires. Le trou noir. Florence Lamarche, médecin spécialiste, qui a fait son fellow en Ontario. Je faisais plus d'actes en Ontario. Là-bas, j'étais accompagnée d'une infirmière d'expérience, d'une pharmacienne, d'une nutritionniste et d'une travailleuse sociale dans mes cliniques. Il y a un dossier numérique qui fonctionne, des commis pour envoyer les requêtes et pour donner des rendez-vous ou pour imprimer des formulaires. Jamais je ne pourrai atteindre cette efficacité au Québec, car nous n'avons pas les mêmes ressources. Geneviève Dechêne, médecin de famille de Verdun, 43 ans de pratique. Près de 40 % des heures travaillées par les généralistes québécois sont en hôpital, versus 15-18 % ailleurs au Canada. Urgence, hospitalisation en région éloignée, soins palliatifs et gériatriques. Les généralistes remplacent une forte proportion des médecins spécialistes dans les hôpitaux des milieux urbains et semi-urbains. Le manque de plateaux. Sébastien Lachance, chirurgien. Je travaille dans un service de 14 chirurgiens. Il y a 10 ans, il y avait 10 postes. Malgré l'augmentation du nombre de chirurgiens, le nombre de priorités au bloc opératoire et en endoscopie est demeuré le même, soit 15 priorités par semaine au bloc et 6 priorités en endoscopie. Dans mon centre, j'ai donc une journée par semaine sans activité en raison de l'absence de plateau disponible. Afin de travailler tous les jours lorsque je suis présent, je vais en région faire du soutien de 6 à 8 semaines par an. Tous ne font pas ce choix. François Dufresne, urgentologue. Mes collègues et moi n'arrivons pas à voir autant de patients qu'il y a 10 ans parce que l'urgence et son plateau technique ne nous le permettent pas. Manque de place pour voir les patients, manque de civières, manque d'infirmières pour relever les prescriptions et donner les soins, manque de préposés aux bénéficiaires pour assurer le mouvement des patients et donner des soins de base, manque de personnel en salubrité pour nettoyer et pouvoir assurer un roulement des patients, etc. La formation continue. Joël Favreau, omnipraticien de Granby, la formation continue qu'exige la profession de médecin demande un temps considérable qui n'est pas facturable. J'investis environ 7 heures par semaine à cette activité pour maintenir mes connaissances dans un domaine pointu et en constante évolution. Cathy Després, chirurgienne à Le Gardeur. La formation continue est essentielle pour maintenir nos compétences à jour et obligatoire pour conserver notre permis de pratique. Mais si je vais 3 jours en formation, je ne vois pas de patients et ne facture pas d'actes à la RAMQ. À ce sujet, un lecteur raconte qu'un médecin proche s'est vu imposer une suspension temporaire par le Collège des médecins car il lui manquait quelques heures de formation continue. Le médecin, au début de la soixantaine, avait plus de 2500 patients à son nom. Les patients hors RAMQ. Radiologue dans un hôpital de Montréal, de 15 à 20% de mes patients sont des patients hors RAMQ, en grande majorité des demandeurs d'asile. Pour eux, je suis payé par la Croix-Bleue. Mon agence me facture 20 $ de frais administratifs par patient dans ce cas. Comme tous mes examens de graphie sont en bas de 20 $, je les lis bénévolement. Ça joue peut-être dans le trou noir. Il ajoute, certains jours, j'ai fini ma journée à 14h30 car il n'y a plus d'examen à lire. Mon activité diminue car il n'y a pas assez de techniciens pour faire toutes les radiographies dont ils ont besoin, se plaignent les orthopédistes. J'aimerais travailler plus. Le soutien moral. Steven Palanchuk, chef des soins intensifs à l'hôpital du Haut-Richelieu. Ce que vous qualifiez de trou noir est peut-être le cœur même du soin. Ce quart-là, ce sont les réunions cliniques, la coordination entre équipes, l'enseignement, les appels entre professionnels, les discussions informelles, mais cruciales, la documentation souvent faite en dehors des heures rémunérées, le suivi et la gestion de la paperasse et des bilans paracliniques, le soutien moral apporté aux collègues, aux familles, aux patients. C'est aussi l'impact psychologique d'un système où le poids émotionnel ne se mesure nulle part. J'anime un balado documentaire intitulé « Soigner jusqu'à se briser ». On y entend des soignants de première ligne et de milieux spécialisés qui expliquent, avec calme et lucidité, pourquoi certains quittent leur poste. D'autres restent, mais le cœur fermé. Ce n'est pas une baisse d'engagement, c'est une perte de sens. C'était « 35 médecins décrivent leur trou noir », un texte de Francis Vaille, paru le 3 juin 2025 dans la presse.
En juin, je lis Autochtones, poésie. Quatre suggestions de lecture de la rédaction, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis Autochtones ». 1. Iskoudé Outaban, La voiture de feu, par Virginia Pessé-Mapeo Bordelot, édition du Quartz. Laissez-vous porter par ce long voyage en train, le retour de l'autrice vers son territoire. Un voyage introspectif, un retour aux sources où elle admirera le territoire, ses significations et toutes les relations qu'elle entretient avec lui. Un texte empreint de beauté comme les paysages qu'elle traversera. 2. Manifeste Assis, A-S-S-I, réédition, par Natacha Canapé-Fontaine, édition prise de parole. La voix unique de Natacha Canapé-Fontaine nous offre une ode au territoire et aux êtres qui l'habitent. Esprits, animaux et forêts se rassemblent ainsi sous le cri de révolte de la poétesse Inou. Un ouvrage puissant et revendicateur qui met de l'avant l'importance et la beauté du Nitassinan. 3. Poésie en marche pour Cindy. Je te veux vivant, réédition, par Virginia Pessé-Mapeo Bordelot, édition du Quartz. Dans un premier temps, l'autrice revient sur la disparition, au printemps 2014, de Cindy Rupert-House, femme de la Première Nation Abitibi-Winnie de Pikogan. On y aborde ainsi les jeunes filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées. Le recueil exprime la peur, le profilage racial, la solidarité et l'indignation. « Je te veux vivant » est tout aussi douloureux et aborde d'autres types de disparitions. Le décès tragique de son fils et la longue maladie suivie de la mort de son conjoint. 4. Ouachtenamu, Allumer quelque chose, par Marie-André Gilles, édition La Peuplade. Avec son franc-parler, Marie-André Gilles appelle à accepter notre époque comme elle se présente, en questionnant les frontières qui se dressent entre soi et quelque chose d'infiniment plus grand qui n'a pas besoin de nom. C'était En juin, je lis Autochtones, poésie. Quatre suggestions de lecture de la rédaction, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis Autochtones ».